Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 11 juin 2008 s'est déroulée sous la coupole la remise des grands prix des fondations de l'Institut de France. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance solennelle. Vous entendrez successivement Jean-François Jarige, président de l'Institut de France et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, prononcer l'ouverture de la séance, puis le discours du chancelier de l'Institut de France, Gabriel de Breuil, intitulé « Le retour de la philanthropie ». Vous entendrez ensuite le discours de présentation des actions des fondations de l'Institut depuis la dernière coupole par Jean-François Jarige. Pour le prix Christophe et Rodolphe Mérieux, François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, a présenté la fondation et le lauréat, François Nosten. Pour le prix scientifique de la fondation Simone et Sino del Duca, Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, a présenté la fondation et le grand prix scientifique de la fondation Simone et Sino del Duca sur le thème de la biodiversité et ou son évolution. Le lauréat 2008 est Philippe Janvier. Pour le prix mondial de la même fondation, la Fondation Simone et Sino del Duca, Jean-Marie Roire de l'Académie française a présenté le lauréat 2008, Mario Vargas Llosa. Le prix et la médaille ont été remis à Mario Vargas Llosa, écrivain et essayiste d'origine péruvienne, pour l'ensemble de son œuvre littéraire. Pour le prix de la Fondation Le Foulon de la Lande, Alain Carpentier, membre de l'Académie des sciences, a présenté la Fondation et le lauréat 2008 du prix de la Fondation Le Foulon de la Lande. Le grand prix scientifique a été attribué au professeur Dario Di Francesco de l'Université de Milan pour ses recherches dans la régulation du rythme cardiaque. Pour la Fondation Énergie, le prix scientifique a été attribué à Catherine Lubetzky, professeure de neurologie à l'hôpital de la Salpêtrière, et à Anne Baron Van Everkoren, directeur de recherche du laboratoire des pathologies de la myéline et des canaux ioniques musculaires à la faculté de médecine de la Salpêtrière. Nicole Ledouarin, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, a présenté la Fondation Énergie et les lauréates récompensés sur le thème des recherches sur la sclérose en plaques. Pour le prix scientifique de la Fondation Louis D, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences Jean Dercourt a présenté la Fondation et le lauréat 2008, Yves Fréniac, directeur de recherche au CNRS, et directeur de l'unité neurosciences intégratives et computationnelles de Gif-sur-Yvette pour ses travaux sur l'imagerie synaptique fonctionnelle et de la dynamique des réseaux corticaux. Enfin, le Grand Prix culturel de la Fondation Louis D a été attribué à l'Université française d'Égypte à Chourouk, près du Caire, pour le développement de son université francophone. Il a été remis par Marie-Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Jean-François Jarige, le président de l'Institut, a ensuite levé la séance.
Mesdames et messieurs, comme chaque année, l'occasion nous est donnée de nous réunir pour remettre les grands prix des fondations de l'Institut de France. Comme chaque année, cette coupole se fait le temps d'une journée, l'ambassade auprès de la Société des Talents que les membres de l'Institut s'efforcent de reconnaître partout où ils se révèlent, avec excellence et simplicité. Interviendront au cours de cette séance M. François Gros, M. Jean-François Bach, M. Jean-Marie Rouard, M. Alain Carpentier, Mme Nicole Ledouarin, M. Jean Dercourt et Mme Hélène Carrère-Dancos, qui présenteront les lauréats des Grands Prix des fondations de l'Institut. Avant de leur laisser la parole et de vous donner un aperçu du mécénat des fondations de l'Institut à travers quelques-uns des projets qu'elles ont permis de réaliser, je veux sans délai laisser le chancelier Gabriel de Breuil parler du retour de la philanthropie.
Nous traversions une époque où l'on parlait beaucoup de raison, de science, de progrès, de liberté. Il faut dire que sous ces notions étaient à l'œuvre des ressorts d'une efficacité spectaculaire, si l'on en juge par l'importance des résultats chiffrés. Un grand demi-siècle d'enrichissement mondial laisse cependant aujourd'hui une profonde inquiétude pour l'avenir de notre planète et s'accompagne d'une prise de conscience chez les plus riches qu'il ne faut pas laisser s'emballer la machine. La richesse matérielle submerge les sociétés développées, mais à la façon des rouleaux sur les plages de l'océan, elle s'enroule autour d'un vide. Le cœur n'y trouve pas sa place. L'argent, bon serviteur, mauvais maître, comme l'a dit François Sagan, l'argent ne fait pas le bonheur. Il devient mauvais maître s'il n'est pas employé pour servir, pour combler le vide, pour introduire le souci de l'autre. Aux institutions froides que l'État moderne a créées pour relayer la charité privée succèdent des notions neuves, au vocabulaire encore mal fixé, le développement durable, l'investissement responsable ou solidaire, le mécénat social, le filtre éthique, mais il faut aussi introduire la notion très ancienne et très moderne du don. Et c'est pourquoi je parlerai plus volontiers du retour de la philanthropie. Le philanthrope, ami des hommes qui s'emploient à améliorer leur sort, fait son apparition dans notre dictionnaire en 1762. C'est une appellation du siècle des Lumières, même si l'idée se trouve déjà dans Platon. La prestigieuse société philanthropique est fondée en 1780 sous le patronage de Louis XVI. L'idée et la chose traversent alors l'Atlantique, prennent racine et se développent dans les États-Unis récents, où Tocqueville remarquera que les Américains sont enclins à se constituer en groupe pour résoudre leurs problèmes communs, tandis que les Français se tournent plus volontiers vers l'État. L'essor des puissantes fondations philanthropiques américaines en sera la conséquence heureuse. En France, la bienfaisance a dès l'origine fait partie de la vocation des académies, mais à titre secondaire, compensatoire en quelque sorte. Eh bien, nous assistons peut-être à une mutation que l'on pourrait décrire comme le retour de la philanthropie, et l'Institut de France paraît bien placé pour célébrer cette nouveauté. Le premier changement nous montre la philanthropie reconnue. Pendant des siècles, la philanthropie n'a pas été considérée en elle-même comme naturelle, ni avec faveur, mais comme correctrice d'un abus. En Orient comme en Occident, les déshérités sont regardés comme les représentants de Dieu et les riches comme défavorisés dans la voie de leur salut. Dans son sermon en 1661, Bossuet a souverainement rejeté le mauvais riche, esclave de ses biens qui le corrompent. L'individualisme bourgeois du XIXe siècle et le socialisme du XXe siècle ont fait le reste. L'idée même était devenue désuète. Et la France était un champ de manœuvre pour les grands philanthropes d'outre-Atlantique qui accédaient, par l'enrichissement général, au statut de figure messianique, presque mythique, incarnée par un Bill Gates ou un Warren Buffett. Depuis une quinzaine d'années, la situation se modifiait en France et l'Institut peut en témoigner. Il accueille la cohorte des nouveaux philanthropes, libérés de tout complexe, organisés, compétents, honorés. Ils forment sous son égide, avec efficacité et dynamisme, la luxuriante floraison de ces fondations d'un nouveau type. C'est qu'entre-temps, le champ d'action s'est élargi, au point de couvrir tout le vaste domaine de la philanthropie pour autrui. Les fondations, quelle que soit la façon dont elles agissent, qu'elles dispensent une manne à des organismes humanitaires qui ne l'attendaient pas, qu'elles apportent un encouragement à des chercheurs dont tous les efforts sont tendus vers la découverte, qu'elles donnent une chance de répondre à un besoin social non encore pris en charge, et ce sont les plus criants. Les fondations qui s'abritent à l'Institut prolonge ses missions traditionnelles. Le propre de la philanthropie est de produire du lien social. Elle donne un sang jeune à la science, aux nouvelles formes de l'art, ajoute une dimension à la redistribution par l'État-providence qui a montré ses limites, crée des relations neuves et bénéfiques au sein de la société. Depuis le grand Corneille, nous savons que la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Mais c'est Tocqueville qui l'a montré. Le don est un échange entre générosité et reconnaissance. Le don doit être privé, parce qu'on n'est pas reconnaissant envers une abstraction, et parce que le don est un art qui a besoin d'une conscience. C'est ainsi que, selon Tocqueville, le don privé conduit au bien public. L'argent ne fait pas le bonheur ? Si, lorsqu'il est prodigué efficacement pour autrui. Le livre célèbre de Bill Clinton a popularisé le programme « Donner ou comment chacun de nous peut changer le monde ». Ainsi, la philanthropie est un trésor. Elle est aussi la clé du bonheur. L'Institut découvre en effet, par l'expérience des mécènes qui l'approchent, un aspect assez neuf et jusqu'ici peu révélé, la philanthropie pour soi-même, pour le bonheur de l'épanouissement personnel, du don qui enrichit le donateur. Si notre époque semble préférer la philanthropie à la charité, c'est que la philanthropie annonce le bonheur, tandis que la charité semble relever encore du devoir. La philanthropie, l'amour des hommes donc, repose bien entendu sur le sentiment de la solidarité si fortement ressenti aujourd'hui, mais elle le prolonge, car elle réintroduit la relation personnelle et l'accomplissement de soi. Parmi les motivations des démarches dont nous sommes les témoins, on citera « chercher un chemin nouveau »,« donner un sens à sa vie », retrouver confiance dans le rôle que le destin nous a confié, se tourner vers de plus hautes aspirations. On voit que l'argent n'est pas la dimension principale. Il ne suffit pas, et ce n'est pas son montant qui commande la démarche. Le don n'est pas gratuit, il n'est pas un retranchement, mais un engagement. Il s'accomplit non par bonne conscience, mais à bon escient, avec joie, et souvent dans la discrétion. La vertu de l'anonymat distingue à cet égard la tradition française de l'américaine. Avoir la passion avec laquelle sont accomplies les démarches, nous pouvons ensemble, mécènes, membres de l'Institut, lauréats, souscrire à cette déclaration des auteurs de l'une des fondations honorées aujourd'hui. Nous vivons une aventure humaine magnifique, dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous avons appris à voir le monde et les hommes autrement. Pour la quatrième année, nous voici tous réunis, fondateurs, mécènes, lauréats, créateurs, savants, nouveaux entrepreneurs socialement responsables, élèves des grandes écoles partageant leur savoir et leurs méthodes de travail avec de jeunes moins favorisés, animateurs bénévoles de tant d'organismes sociaux, nous voici tous réunis afin de célébrer le retour de la philanthropie. Dans la société d'aujourd'hui, le don est devenu un flux vital, un peu comme le sang dans le corps humain. Il faut qu'il bouge pour que le corps reste en vie. Et c'est une satisfaction profonde qu'éprouve l'Institut de France d'être choisi comme instrument de cette circulation généreuse. Dans ce temple des valeurs intellectuelles, nous sommes heureux de prêter notre décor à une bourse des valeurs solidaires. Nous n'y avons qu'un titre à échanger, mais nous le délivrons avec infiniment de chaleur. C'est l'expression d'une immense gratitude envers les philanthropes et des plus vives félicitations aux lauréats qui sont aussi des philanthropes.
Merci, Monsieur le Chancelier. Avant d'entamer la cérémonie de remise des grands prix, je voudrais cette année vous exposer en quelques minutes un panorama de la multitude des projets qu'ont soutenus les fondations de l'Institut de France. L'Institut est fier de perpétuer une longue tradition de mécénat culturel et artistique. À Chalice, propriété de l'Institut depuis le lait somptueux de Nelly Jacquemart-André, la chapelle Sainte-Marie, qui abrite le seul ensemble religieux peint par Primatis parvenu jusqu'à nous, s'est vue offrir une seconde renaissance. L'histoire de l'abbaye royale de Chalice, résumée il y a peu Éric Mancio-Rigo, est celle d'un trésor de générosité, celle d'Antoine Bernheim, président de la Compagnie d'assurance Generali, celle des fondations Louis D, Del Duca, Le Foulon de la Lande et Cora, celle enfin de Monsieur et Madame Pinaton et de Madame Colette Duglé. D'autres édifices religieux ont bénéficié des largesses de tels amoureux du patrimoine. Ainsi, l'hostellerie et le dortoir des convers de l'abbaye de Clairvaux, restaurés par la fondation Lefort Beaumont. À la fin du mois dernier, s'est tenue à Bougival, sous l'égide de la Fondation La Forlane et le patronage de l'Académie des Beaux-Arts, un festival de musique. Bougival, source d'inspiration d'artistes comme Renoir, Monet, Pissarro, fut le lieu où Bizet acheva, exténué, les 1200 pages de son célèbre opéra. Cette année, l'Association des Amis de Georges Bizet, qui organise la rencontre, a invité Teresa Berganza, l'une des plus grandes incarnations de Carmen, a prodigué quelques conseils aux jeunes professionnels. Il y a tout juste un siècle, Paul Pelliot entamait l'ultime étape d'une mission qui allait lui valoir une notoriété considérable. Dans les grottes de Dunhuang, au nord-ouest de la Chine, ce savant surdoué, tout à la fois historien, linguiste et archéologue, exhumait ainsi un immense ensemble de milliers de manuscrits chinois, turcs, tibétains et sogdiens datant des 6e et 10e siècles. Ces carnets de route, rédigés entre 1906 et 1909, chargés de notes et de croquis, ainsi que l'intégralité de ces photographies prises pendant cette période, ont été compilés et édités par le musée Guimet, dans un livre CD-ROM grâce à la fondation Cora. Et puisqu'il est question d'archéologie, citons pour cette discipline le Grand Prix Simone et Cino del Duca, attribué depuis 2005 à une mission archéologique à l'étranger par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et qui a été décerné cette année à la mission franco-saoudienne de Leila Némé à Medan Saleh. Le foisonnement artistique actuel réclame des soutiens et nombreux sont les projets qui avortent, celui de Caroline Marc, danseuse citadine qui aime à se jouer de l'apesanteur, a pu aboutir grâce à la fondation Écart-Pomarez qui lui a donné les moyens de réaliser en 2006 son spectacle « Soi ». Investir l'espace public, c'est aussi le but de la fondation Art Dialogue qui encourage les créations et expositions d'art plastique en milieu urbain, pour solliciter au moyen de cahiers accrochés près des œuvres les commentaires écrits des passants sur l'œuvre exposée et stimuler les échanges entre les habitants d'un quartier. Saluons aussi la belle réalisation du sculpteur savoyard Livio Benedetti que la Fondation Pierre Dumas couronnait de son prix en 2007 pour son buste de Pierre Dumas inauguré en 2007 par Pierre Messmer, l'un de ses grands amis. Mentionnons aussi l'action des fondations Aurélie Nemours, Édouard Bonnefous, Coulon, Empreinte, Gobi, Henri Gall, Kirchner, Marianne Roland-Michel, Fitrust, Tocqueville, Théophile Legrand et Colette Kaya, ainsi que les récents prix Onassis. La recherche scientifique doit toujours être à la pointe. Il lui faut pour cela le secours de la technologie dont les innovations prennent forme dans des outils toujours plus chers. C'est ici qu'intervient le mécénat, dont l'essor est un atout essentiel pour une société qui croit en son avenir. Malheureusement, nombreux sont les apprentis ingénieurs qui se détournent à l'heure actuelle de leur première vocation. C'est notamment pour que cesse cet exode scientifique que la Fondation européenne pour les énergies de demain, créée par EDF, a vu le jour. Elle contribue à la création de formations spécialisées dans le domaine de l'énergie pour en préparer les futurs professionnels. 1 million d'enfants souffrent en Chine de scoliose idiopathique, le même nombre en Amérique du Nord. Cette maladie, outre l'aspect déprimant qu'elle inflige, rejaillit sur l'ensemble de la santé. Grâce à la Fondation Cottrel, Alain Moreau, chercheur spécialiste des maladies musculo-squelettiques, a pu mettre au point avec son équipe du CHU Sainte-Justine de Montréal un premier test diagnostique par prise de sang permettant de découvrir chez un enfant de 5-6 ans s'il risque ou non de souffrir de scoliose. La Fondation Unité Guéra Paul Baudouin Lambrecht Mayano encourage les équipes médicales dans le domaine de la recherche contre la douleur. Le professeur Guy Simonet a ainsi vu récompenser ses travaux de recherche sur le traitement de la douleur chronique, qu'il a identifié non pas seulement comme le simple reflet d'une douleur aiguë qui persisterait, mais aussi comme le résultat de l'histoire de l'individu lui-même, jetant un pont entre neurosciences et sciences humaines. La Fondation Dalloz enfin décerne chaque année un prix dans le domaine de l'ophtalmologie. Elle a remis en 2007 son prix à Valeria Nuzzo du laboratoire d'optique appliquée de l'école polytechnique à Palaiseau, dont les travaux portent sur la greffe cornée pour le traitement du glaucome. Pour la recherche médicale et scientifique, rendons aussi hommage aux fondations AGF, Recherche cardiovasculaire et Sophie Germain, ainsi que les fondations Le Foulon de la Lande, Christophe et Rodolphe Mérieux, Louis D et Énergie, dont on reparlera au cours de cette séance. Les projets humanitaires et d'utilité sociale revêtent aux yeux de l'Institut une importance toute particulière, alors même que l'émergence d'un tiers-monde suscite de nouvelles responsabilités. Participer au développement de l'homme, telle est la devise de la Fondation Blanc-Ménil qui fête cette année ses 10 ans au service des hommes et des femmes de tous âges et de toute origine. La Fondation est par exemple intervenue en faveur de la communauté indigène de la paroisse de Calpi dans la province du Chimborazo en Équateur afin de mener à bien le projet de construction d'une filature de laine de lama et de réintroduire l'élevage de cet animal sur ses hautes et arides terres. Nombreuses sont les fondations qui s'attachent aussi à rendre moins pénible l'existence de ceux qui sont dans le besoin, et en premier lieu, les enfants. Ce besoin peut être de toute nature. À Roquetaillade, dans le Gers, les enfants accidentés du centre de rééducation de l'Ordre de Malte, qu'a aidé la fondation DICE, ont toujours besoin de l'aide des autres. Dans les maisons personnelles de l'association du même nom, créée par Lino Ventura, la fondation DEEC a permis que l'on accueille des enfants handicapés. Leur bonheur, disait jadis le grand acteur français, est notre récompense. Au service des enfants bien portants, mais souvent désœuvrés, du quartier de Malpassé, au nord de Marseille, l'association Massabiel a entrepris récemment la construction d'un centre de vie, la maison Bernadette, pour que les plus jeunes réinvestissent un quotidien trop souvent terne et violent. Retournons à l'hôpital, où l'association L'Enfant à l'Hôpital, en partenariat avec la Fondation Del Duca, mobilise des élèves de l'école polytechnique au service des malades, grâce à une plateforme interactive. Ceux-ci peuvent alors entrer en contact avec de multiples correspondants et ainsi assouvir une soif de découverte aussi grande que leur handicap est lourd. La Fondation Steria œuvre plus largement pour une utilisation philanthropique de la technologie. Grâce à elle, des étudiants ont pu concevoir en 2004 un clavier virtuel s'adaptant au handicap d'une personne en fonction de la sensibilité de son corps. Le projet, qui a reçu un accueil exceptionnel de la communauté médicale, a de nouveau été aidé en 2008 pour son optimisation. Citons encore avec non moins de gratitude les fondations Alba France, de Coster, Feuillade de Chauvin, Onac, Théophile Legrand et la Fondation. La formation et l'éducation sont bien évidemment des missions fondamentales de l'Institut de France. Éduquer un garçon, c'est éduquer un individu. Éduquer une fille, c'est éduquer tout un peuple, déclare Paul Nikiema, proviseur du centre Curitas Saint-Philippe, lycée technique du département de Koupéla au Burkina Faso. Instruites, les femmes deviennent en effet les courroies de transmission des savoirs. Là-bas, grâce à l'intervention de la Fondation Blanc-Ménil, la construction d'un internat féminin a permis de vaincre l'obstacle insurmontable que peut représenter en Afrique la distance. L'attention bienveillante et confiante aux jeunes femmes, c'est aussi l'une des missions au Maroc de la Fondation Janelli et Jean-René Fourtou. À Sidi Ben Youssef Ali, on a bâti un internat féminin de 200 places destiné à accueillir exclusivement les jeunes filles du monde rural ayant eu leur bac. En France, aider des jeunes qui n'en ont souvent pas les moyens pour affronter un système scolaire dont l'enseignement supérieur est financièrement élitiste, c'est l'objet des jeunes fondations Henri Lachmann et Guy Sayas, mais aussi de façon plus ciblée, celui de la fondation Un métier, vocation, qui consacre ses subventions à l'aide aux jeunes infirmières. Citons aussi encore les fondations Luciole, Bézian et Nourri. Pour finir, citons quelques projets dédiés à l'avenir, soucieux de l'environnement et du développement durable. 1,2 milliard de personnes sur notre planète n'ont pas accès à une eau potable. Deux projets de très grande envergure sont directement soutenus par l'Institut de France dans ce domaine. Le premier, soutenu par la fondation Suez Eau pour tous, a pour nom Aquassistance. Il procède de la volonté de collaborateurs de Lyonnaise des Eaux de mettre leurs compétences au service de populations privées de cette ressource vitale. Au Burkina Faso, de janvier à février 2007, afin d'approvisionner les communautés en eau, il a fallu creuser des tranchées avec les habitants et mettre en place le réseau d'une bonne fontaine et installer une pompe motorisée. Quant au programme, 1001 fontaines menées au Cambodge grâce au soutien de la fondation Avenir Finance, il consiste en l'installation pour de petites communautés villageoises de stations de purification par ultraviolet. Cette technologie simple d'utilisation économique permet, parce qu'elle suppose la prise de relais des habitants eux-mêmes, de fonder solidement le développement durable. Dans la catégorie des hommes soucieux de l'environnement, citons également la fondation Yves Rocher et son prix Terre de Femmes, qui récompense des femmes œuvrant pour un monde plus vert. Un autre prix, le prix Botio du Lac, destiné à récompenser ou à aider des personnes ou des institutions qui contribuent à la sauvegarde des animaux, a couronné un projet original, celui du parc zoologique et botanique de Mulhouse, de conserver in situ l'espèce de l'autruche à cou rouge dans la réserve de l'Aïr et du Ténéré, au nord de la République du Niger. Évoquons aussi l'action de la Fondation Jacques et Françoise Lescouzère, qui s'attache à promouvoir, à partir d'expériences menées sur le massif forestier des Agros dans les Landes, la gestion durable des domaines sylvicoles et de leur patrimoine bâti. Agissent également pour l'environnement la Fondation Barthélémy et la Fondation Daniel Jouvence, créées cette année à l'Institut. L'évocation de ces quelques partenariats, dont il faut répéter ici que la liste est loin d'être exhaustive, met en lumière l'extrême diversité des champs et des moyens d'action qui sont maintenant à la disposition de l'Institut de France pour mener à bien la haute mission qui lui fut jadis confiée par ses fondateurs et pour répondre aux attentes de notre monde actuel. Beaucoup d'académiciens siègent dans les conseils d'administration des fondations ou dans les jurys auxquels est confiée la lourde responsabilité, mais aussi l'honneur, de sélectionner les lauréats des grands prix que nous remettons aujourd'hui. Ils sont, par ce concours décisif, les garants de l'autorité de l'Institut, et pour cela, nous tenons à leur rendre hommage et à les remercier très chaleureusement. Sans plus attendre, place maintenant à la remise des grands prix. Et pour commencer, nous allons découvrir le lauréat du prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Je donne la parole à Monsieur François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux de Monsieur François-Henri Nosten.
J'ai eu l'an dernier, en ce même lieu, le privilège de décrire la très belle et récente initiative que nous devons à la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, Institut de France, qui est celle d'avoir créé un grand prix scientifique destiné à aider les scientifiques et les médecins qui luttent sur le terrain, dans toutes les parties du monde, dans des conditions parfois très difficiles et très pénibles, pour faire reculer le fléau des maladies infectieuses. Celle-ci, vous le savez, frappe souvent les plus déshérités, les plus vulnérables d'entre nous. Par exemple, les personnes qui vivent dans les camps de réfugiés, loin de tout centre médical. C'est donc là, je le répète, une initiative qui fait honneur à la Fondation, créée en 2001 par Alain et Chantal Mérieux, certains de leurs enfants, une fondation dont on connaît l'action humanitaire, éducative et scientifique, qui a créé dans de nombreux pays de l'hémisphère sud de très puissants outils d'intervention. Le prix Christophe Mérieux échoit cette année un homme au parcours scientifique, médical et humanitaire exceptionnel, François Nostell. François Nostell c'est un Français diplômé de médecine de l'Université de Rouen, qui est docteur en sciences de l'Université de Paris et qui fait assez rare, est également professeur de médecine tropicale à l'Université d'Oxford. Il a d'abord œuvré à l'organisation Médecins sans frontières pour aider les enfants des camps de réfugiés cambodgiens et ougandais. Puis, à partir de 1984, il va se consacrer exclusivement à la lutte contre le paludisme auprès des réfugiés Karen entre la Birmanie et la Thaïlande. Le peuple Karen, qui vit en Birmanie dans la région du Tenasserim, est un peuple tibéto-birman qui est formé surtout d'agriculteurs semi-nomades convertis au christianisme. Il a eu souvent maille à partir avec le gouvernement fédéral et se trouve donc fréquemment ballotté d'un pays à l'autre. François Nostell a créé en 1986 la Choklo Malaria Research Unit à Mae Sot, en Thaïlande, et n'a cessé de diriger cette unité depuis cette époque. Et comme on pourra le voir sur le film qui va nous être projeté incessamment, il s'agit d'une structure importante employant 250 personnes, pour la plupart thaïlandais et karen, ainsi que des expatriés. La recherche qui s'y développe s'appuie sur la population qui vit dans la province de Tak. C'est une population frontalière du nord-ouest de la Thaïlande qui se trouve dans des conditions précaires. En effet, la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie est une région endémique pour les deux agents les plus redoutables du paludisme, le Plasmodium falciparum et le Plasmodium vivax. Les souches de cet hématozoaire que l'on y rencontre figurent en effet parmi les plus résistantes au monde vis-à-vis des traitements chimiques traditionnels. Il faut rappeler que le paludisme demeure l'une des maladies les plus meurtrières après le sida et la tuberculose. D'où le combat mené par Nostell sur plusieurs fronts. Analyse épidémiologique, prévention, thérapeutique, en particulier pour protéger et pour traiter les femmes enceintes et les enfants. Ces travaux vont peu à peu permettre de dessiner ce qu'on peut considérer comme une nouvelle forme de traitement moderne de la maladie. Il a mis en effet au point une combinaison antipaludique incluant l'artémisinine, qui est un agent classique du traitement du paludisme, et d'autres agents antipaludiques assez nombreux. Le traitement qui est connu aujourd'hui sous le nom d'artémisinine combination therapy est recommandé aujourd'hui par l'OMS. Il a eu des effets spectaculaires dans cette population frontalière où ont été suivies depuis ces deux décennies 30 000 femmes et 3 000 enfants. L'unité dirigée par François Nostell est devenue d'ailleurs centre de référence pour les différentes organisations non gouvernementales, les ONG qui travaillent dans cette région, c'est-à-dire en Birmanie, au Laos, au Cambodge, en Inde et au Bangladesh. Et c'est aussi devenu un centre de formation pour les jeunes chercheurs de qualité. En résumé, François Nostell, qui a obtenu d'ailleurs en 2002 la prestigieuse médaille Chalmers de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, appartient à cette lignée de médecins infectiologues à la fois modestes, courageux, efficaces, faisant progresser nos connaissances, vivant au sein même des populations les plus vulnérables. C'est un homme dont le combat et la détermination sont pour nous un exemple.
Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. J'invite le professeur François-Henri Nosten à monter à la tribune. Nous allons maintenant découvrir le lauréat du prix scientifique de la Fondation Simone Cino del Duca. Je donne la parole à Monsieur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux de Monsieur Philippe Janvier.
La Fondation Simone et Cino del Duca attribue chaque année 3 importantes subventions de recherche et un grand prix de recherche. Les 3 subventions sont attribuées cette année à Thomas Bourgeron, professeur à l'Université Paris 7 pour ses travaux sur la génétique de l'autisme, à Dominique Ferrandon, directeur de recherche au CNRS à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg, et à Éric Vivier, professeur à l'Université d'Aix-Marseille 2 pour ses travaux sur les cellules naturelles tueuses et l'immunité innée. Le Grand Prix est dédié cette année au thème de grande actualité de la biodiversité et de l'évolution. La biodiversité considérable des espèces végétales et animales de notre planète en sont une grande richesse que notre société doit savoir conserver. Au cours des années, les recherches de grande qualité ont permis d'établir un inventaire remarquable de plus de 7 millions d'espèces vivant dans les différentes régions du monde. Les techniques utilisées se sont appuyées sur des progrès de la technologie avec l'entrée en force récemment de la biologie moléculaire. L'analyse comparée de ces très nombreuses espèces a très vite posé le problème de leur parenté et donc de leur filiation, conduisant au problème central de l'évolution. Des débats passionnés occupèrent la scène scientifique pendant très nombreuses années, culminant avec les travaux de Lamarck, puis de Darwin, et aboutissant à la théorie de sélection naturelle, admise par tous aujourd'hui, sauf peut-être au niveau de certains foyers de contestation, au demeurant le plus souvent sans fondement scientifique, comme le créationnisme. Le lauréat du prix Simone et Cino del Duca 2008 est Philippe Janvier, directeur de recherche au CNRS, au Muséum national d'histoire naturelle. Les premiers travaux de Philippe Janvier concernèrent des espèces de vertébrés sans mâchoire, les ostéostracés, qui ont vécu il y a 430 à 370 millions d'années et qui sont apparentés à la lamproie de l'ère moderne. Il put montrer, en s'appuyant sur une analyse fine de boîtes crâniennes de fossiles remarquablement conservés, que l'évolution du système nerveux de ces animaux obéissait à des règles inconnues jusque-là, qui ouvraient des perspectives nouvelles sur l'évolution des vertébrés sans mâchoire. Philippe Janvier s'engagea ensuite dans l'étude systématique des caractéristiques anatomiques des vertébrés avec mâchoire. Il put montrer que certaines de ces caractéristiques apparaissent très progressivement sur de longues périodes de plusieurs millions d'années, alors que d'autres, de façon étonnante, émergent de façon relativement soudaine. Il s'intéressa au contrôle génétique de l'apparition des organes et montra, en collaboration avec des généticiens du développement, que cette apparition se faisait sous un contrôle génétique strict, utilisant en particulier un gène original OTX1, et ainsi il put être expliqué que 3 organes apparemment sans relation, un élément de l'oreille interne, le labyrinthe, les processus ciliaires, le cervelet, apparemment, dont je le disais, sans relation, apparaissaient parallèlement au cours de l'évolution. Il montra aussi que les vertébrés sans mâchoire de l'ère moderne, comme la lamproie ou la myxine, n'avaient pas pour ancêtre les ostéostracés, mais en avaient dérivé avant l'apparition des squelettes calcifiés il y a 470 millions d'années. Il montrait aussi que la lamproie n'est pas une espèce dont l'anatomie et la physiologie ont régressé au cours du temps, mais en fait, leur structure crânienne est à l'image de celle des animaux des premiers vertébrés de l'évolution. Au-delà de ces travaux qui ont mené à des progrès conceptuels majeurs, Philippe Janvier a été tout au long de sa carrière un homme de terrain, parcourant l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Spitzberg, à la recherche de fossiles vertébrés dont il analysa de façon combinée les squelettes, mais aussi les parties molles calcifiées qui étaient négligées par tous les autres chercheurs jusque-là. Les travaux de Philippe Janvier ont apporté une nouvelle perception de l'origine et de la diversification des vertébrés. L'Institut de France et le jury de la Fondation Simone et Sino del Duca sont fiers et heureux de reconnaître aujourd'hui un des plus grands paléontologues de notre temps.
Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. J'invite monsieur Philippe Janvier à monter à la tribune. Nous allons maintenant découvrir le lauréat du prix mondial de la Fondation Simone et Gino del Duca. Je donne la parole à monsieur Jean-Marie Rouard de l'Académie française pour nous parler de l'œuvre de monsieur Mario Vargas Llosa.
À l'heure où l'on s'interroge sur le roman et la crise qu'il traverse, Mario Vargas Llosa incarne sa formidable vitalité. Il réduit à néant par sa magie créatrice les clivages artificiels entre roman traditionnel et modernité, littérature pour élite et roman populaire. Son œuvre s'impose sans théorie, sans rupture ni provocation par sa propre force. Écrite en espagnol, issue d'un pays, le Pérou, qui s'inscrit dans l'histoire souvent tragique de l'Amérique latine, elle porte en elle à la fois le parfum et l'originalité de ses origines, mais par sa valeur, elle a une portée et un succès universel. Mario Vargas Llosa ne nous a rien caché dans ses livres autobiographiques des drames de son enfance. L'attachement à son grand-père, consul en Bolivie, la mésentente de ses parents, ainsi que l'expérience cruelle d'un collège militaire de Lima, d'où il a tiré un livre violent, La ville et les chiens. Première expérience d'une violence qu'on retrouvera amplifiée dans plusieurs de ses romans, notamment dans un de ses plus beaux livres, La fête au bouc, qui évoque la fin du régime sanguinaire de Trujillo à Saint-Domingue. Ancré par son imaginaire dans l'Amérique latine, déployant dans ses romans d'abondantes fresques où les paysages et les hommes sont décrits, Mario Vargas Llosa a néanmoins tisser des liens exceptionnels avec l'Europe et particulièrement avec la France. C'est d'ailleurs à Paris où il s'installe après la parution de son premier livre, Les Caïdes, qu'il découvre l'œuvre de Flaubert, qui est pour lui une révélation. Madame Bovary, il l'avouera, fait partie, je le cite, de cette poignée de personnages littéraires qui ont marqué ma vie de façon plus durable qu'une bonne partie des êtres de chair et d'os que j'ai connus. Il est aussi un lecteur passionné de toute l'œuvre de Flaubert qu'il connaît admirablement et qui va lui inspirer L'orgie perpétuelle, un essai placé sous l'épigraphe célèbre « Le seul moyen de supporter l'existence est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle ». Mais Mario Vargas Llosa, en dépit de sa fascination pour Flaubert et pour la littérature européenne, reste ancré dans l'histoire et les tragédies de son pays, en proie aux démons de la violence qui ensanglante l'Amérique latine et où sévissent la dictature et le terrorisme. Il les évoquera notamment dans deux de ses romans, Histoire de Maïta et Qui a tué Palomino Molero. Parallèlement à ce caractère tragique de l'histoire, Mario Vargas Llosa a su manier l'humour avec les aventures de la fantasque tante Julia. Éloigné pour une fois de Flaubert, ennemi de tout engagement politique et sectateur de l'art pour l'art, Mario Vargas Llosa a fondé au Pérou un parti politique et il a été candidat à l'élection présidentielle de 1990. Par la richesse et la variété de ses romans, ainsi que par ses engagements, son œuvre a des points communs avec celle du grand écrivain anglais Graham Greene. À la fois tragique et humoristique, elle est hantée par la passion de l'art littéraire et animée par le souffle de la liberté. C'est pour toutes ces raisons que le jury et le comité de la Fondation Simone et Sino del Duca sont heureux de lui attribuer le prix mondial.
J'invite Monsieur Mario Vargas Llosa à monter à la tribune. Revenons maintenant à la science pour découvrir le lauréat du prix de la Fondation Le Foulon de la Lande. Je donne la parole à M. Alain Carpentier de l'Académie des sciences pour présenter les travaux de M. Dario Di Francesco.
Chaque année, la Fondation Le Foulon de la Lande décerne des bourses de recherche pour des jeunes chercheurs français et décerne un grand prix de 500 000 euros pour un chercheur éminent de qualité internationale. Et ce, dans un domaine très particulier qui est le domaine cardiovasculaire. Cette année, le Grand Prix Le Foulon de la Lande, Institut du Cœur, a été décerné Dario Di Francesco. Excusez-moi. J'ai tellement prononcé son nom tous les jours que je l'ai oublié. Alors, bien sûr, c'est une histoire de cœur. Chacun sait que l'activité du cœur, c'est très important. Cette activité est un véritable miracle, puisque le cœur bat spontanément 100 000 fois par jour et quelques 35 millions de fois par an. Mais quelle structure est le siège de cette activité et quel est le mécanisme de cette activité ? C'est ce à quoi Dario Di Francesco a consacré sa vie professionnelle. Alors la structure est connue. La structure est connue, c'est une espèce de noyau de cellules, gros comme un petit pois, dans l'oreillette droite. C'est ce qu'on appelle le centre pacemaker, c'est-à-dire un centre pacificateur. C'est lui qui régule en quelque sorte le rythme cardiaque. Mais ce qui n'était pas connu, et ce que Di Francesco a résolu, c'est le mécanisme intime de cette activité et de cette régulation. Alors pour cela, il a commencé sa carrière en allant chez le grand maître de ce qu'on appelle les canaux ioniques, le grand maître de ces canaux ioniques qui est dans l'audience, qui est Denis Noble, à Cambridge. Pas aux États-Unis, mais en Angleterre. Et là, ensemble, ils ont découvert, ils ont travaillé sur les canaux ioniques du cœur. Et puis, après 3 ans, Di Francesco est revenu à Milan, qui est sa ville d'origine, c'est un Italien. Et là, en fait, il a trouvé lui-même le canal spécifique qui est responsable de la régulation du cœur, de son activité. Pourquoi un cœur s'accélère dans certaines conditions, quels sont les mécanismes qui sont en jeu. Et c'est là sa contribution majeure, en trouvant un canal spécifique que personne n'avait trouvé avant lui, qui s'appelle le canal IF. Alors, ces découvertes, Dario Di Francesco les a fait à Milan, dans des circonstances qui méritent d'être soulignées, parce qu'il est allé à Milan pratiquement sans moyens, a constitué une petite équipe, a formé un laboratoire de toutes pièces, et c'est dans ce laboratoire, avec cette petite équipe, qu'il a trouvé les mécanismes qui président à la régulation de l'activité cardiaque. Et c'est cette particularité que le jury du Grand Prix Le Foulon de la Lande a voulu souligner en accordant à Di Francesco ce prix. Il a voulu aussi rendre un hommage à une particularité de Di Francesco, qui est le fait de ne pas se contenter de la recherche fondamentale, mais de lui donner une application clinique, une application pratique, dont je vais dire brièvement l'importance. En effet, ses recherches ont conduit à la mise au point d'un médicament, et ce médicament a des vertus tout à fait particulières, puisque ce médicament permet de ralentir le cœur. Permet de ralentir le cœur, mais sans altérer sa capacité de contractilité, contrairement à ce que font les autres médicaments du cœur connus sous le nom de bêta-bloqueurs. Vous voyez, c'est un médicament de toutes les vertus, et c'est à Francesco que nous le devons. Ces recherches fondamentales ont été aidées, deuxième point qu'a souligné le jury, ont été aidées par sa capacité à modéliser par les mathématiques l'activité du cœur. Et cet exemple de l'importance en recherche de la transversalité entre les différentes disciplines de recherche a été ainsi souligné. Voici ce que j'ai à dire sur Dario Di Francesco. Je terminerai simplement par dire que c'est avec une très grande joie et une très grande fierté que nous avons pu distinguer un chercheur qui était encore pas suffisamment connu, qui a apporté des contributions absolument essentielles, et très content que l'Institut, monsieur et madame Le Foulon de la Lande, aient accepté notre proposition de décerner ce grand prix à un chercheur, le professeur Dario Di Francesco, grand chercheur, grand pacificateur du cœur, dont un poète a pu rêver que ses cellules soudain se multiplier pour pacifier un monde qui en a bien besoin.
J'invite le professeur Di Francesco à monter à la tribune. Ce sont maintenant deux lauréates que nous découvrons pour le prix scientifique de la Fondation Énergie. Je donne la parole à Madame Nicole Ledouarin, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux de Madame Catherine Lubetzky et de Madame Anne Baron van Everkoren.
La Fondation Énergie Institut France a été créée en 1999 par M. Jean-Paul Baudecroux, dans un but humanitaire et de soutien à la recherche. Son activité s'exerce dans le domaine de la biomédecine et particulièrement dans celui des neurosciences. La Fondation attribue chaque année un grand prix européen destiné à récompenser et à encourager des travaux scientifiques d'un chercheur ou d'un groupe de chercheurs travaillant dans une institution publique ou privée. En outre, elle fait bénéficier de jeunes équipes œuvrant en France de subventions destinées à les aider à lancer leurs projets. Les thématiques proposées pour le prix et les subventions sont définies chaque année et font l'objet d'un appel qui est largement diffusé. Au nom de mes confrères, membres du conseil scientifique de la Fondation, les professeurs Jean-François Bach, qui en est le président, Yves Laporte, Pierre Buzère, Jean Rosa, Alain Prochian, et en mon nom propre, je tiens à remercier ici très sincèrement M. Jean-Paul Baudecroux pour son action en faveur des chercheurs qui se consacrent à l'étude du système nerveux et de ses dérèglements. Le sujet du Grand Prix Énergie 2008 portait sur la sclérose en plaques. Le prix a été attribué au groupe de travail comprenant Anne Baron van Everkoven, doctoresse sciences, directeur de recherche à l'INSERM et co-directeur d'une unité mixte de recherche dépendante à la fois de l'INSERM et de l'université Pierre et Marie Curie, et à Catherine Lubetzky, docteur en médecine et doctoresse sciences, professeure de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et dont l'activité clinique est spécialisée dans le diagnostic et le traitement de la sclérose en plaques. Madame Lubetzky, de plus, partage son temps entre cette activité clinique et la recherche fondamentale. Le sujet des recherches menées par ces chercheuses et leurs collaborateurs concerne la démyélinisation et la remyélinisation dans la sclérose en plaques. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui atteint 60 000 personnes en France et dont on dénombre environ 2 000 nouveaux cas chaque année. Ces causes ne sont pas complètement élucidées, mais elles tiennent à la fois d'une prédisposition génétique et de facteurs environnementaux. Elle est caractérisée par la destruction de la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses dans le cerveau et la moelle épinière. Sans myéline, les axones puis les neurones dégénèrent, ce qui entraîne une invalidation plus ou moins grave selon l'étendue et la localisation des lésions. La démyélinisation se produit par vagues. Elle a une cause inflammatoire et s'apparente à une maladie auto-immune. Mais entre les phases de destruction de la myéline, le tissu nerveux a recours à des cellules souches neurales pour reconstituer la couche de myéline protectrice des fibres nerveuses. Malheureusement, ce processus de réparation spontanée est dans la plupart des cas incomplet, parfois inexistant. Le travail de ces deux équipes consiste à rechercher des moyens pour assurer et amplifier la remyélinisation. Pour cela, elles cherchent à comprendre les mécanismes de la différenciation et du recrutement à partir des cellules souches des cellules qui produisent la myéline et qu'on appelle les oligodendrocytes. C'est sur ces cellules souches du tissu nerveux que repose le mécanisme de réparation des couches de myéline. Les résultats déjà acquis par ces deux équipes sont de tout premier plan et le programme de recherche qu'elles ont présenté est particulièrement pertinent du fait de son approche pluridisciplinaire. En effet, il fait intervenir une étude génétique d'envergure auprès de nombreuses familles bien répertoriées, à risque, ainsi que des travaux approfondis de biologie cellulaire sur les facteurs qui favorisent la différenciation des oligodendrocytes et qui guident la migration de leurs précurseurs vers les sites de liaison. Ces travaux sont menés en étroite connexion avec les malades grâce à l'activité clinique et physiopathologique menée par Catherine Lubetzky, qui cherche par ailleurs à mettre au point une méthode d'imagerie en PET scan qui permettrait de visualiser d'une manière non invasive sur les patients l'état de remyélinisation de leurs lésions. Il s'agit là donc d'une recherche translationnelle dans toute l'acception du terme, où les progrès de la recherche fondamentale doivent se traduire au plus vite en avancées thérapeutiques. Ce groupe, constitué de Anne Baron van Everkoren et de Catherine Lubetzky, est considéré au niveau international comme un des meilleurs dans le domaine de cette maladie très invalidante, et c'est pourquoi le jury scientifique et le conseil de fondation les ont choisis pour le Grand Prix Énergie 2008.
Merci, Madame le secrétaire perpétuel. J'invite Madame Catherine Lubetzky et Madame Anne Baron van Everkoren à monter à la tribune. Découvrons maintenant le lauréat du Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D. Je donne la parole à M. Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux de M. Yves Frégnac.
Monsieur le Président, messieurs et chers confrères, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord montrer comment notre jury fonctionne pour garantir la qualité telle qu'elle a été rappelée par Monsieur le Chancelier. Le sujet est présenté par le comité de fondation. En l'occurrence, il s'agit d'un sujet complexe, mais qui se résume en trois mots: système adaptatif complexe. À partir de ce sujet, 10 des plus grandes académies du monde sont sollicitées de trouver un ou deux candidats répondant à cette définition. Ces travaux se font à leur indépendance et nous recevons un ou deux fois de propositions par académie. Leur travail n'est pas fini. En effet, toutes les académies reçoivent toutes les réponses. Et il est demandé de les classer du premier au dernier, sachant que, sauf les 5 premiers, les autres ne seront pas examinés. Le jury composé par l'Académie des sciences et des académiciens scientifiques relevant d'autres unités nous entoure. Chacun fait un rapport sur tous les candidats et un rapport spécial sur un d'entre eux. Ensuite, il y a du travail usuel d'un jury. Deux noms sont dégagés, l'un en première ligne, l'autre en deuxième ligne, et les conseils de fondation choisissent. C'est ainsi que nous sommes amenés à voir des questions de très nombreuses, venant de pays très nombreux, dont certains Français et pas forcément proposé par la France. Et cette année, nous avons choisi une équipe animée par un homme, Yves Frégnac, mais une équipe où les membres relèvent de différentes disciplines. Ce ne sont pas des équipes associées propres à chaque discipline, mais c'est une même unité. Certes, tous les membres ont une œuvre personnelle remarquable. Et ce qui a séduit le jury, c'était le caractère pluridisciplinaire intégré complètement. On le verra très bien dans le film. Le leader s'est imposé et est le responsable de cette équipe si active et de si grand renom, car elle avait été choisie par un grand nombre d'académies étrangères. Yffrey Jacques était tout à fait préparé à entreprendre ses travaux. C'est un ingénieur de l'École supérieure d'électricité. Cet ingénieur a passé un doctorat à la faculté de médecine Paris 5 et, 4 ans après, un doctorat d'État à la faculté, la partie scientifique de la faculté Pierre et Marie Curie. Le voilà donc armé pour entreprendre et pour réunir autour de lui des équipes. Et la façon de faire cela a été de grandir par couches concentriques. Ainsi, il est aujourd'hui directeur de recherche au CNRS et il anime une équipe qu'il a créée dans un laboratoire propre du CNRS à Gif-sur-Yvette. Et cela, il a donné comme nom à cette équipe qui réunit tous ses collaborateurs et ses collègues, neurosciences intégratives et computationnelles. Celle-ci résume l'essentiel des moyens de travail. Ces recherches sont tournées, les recherches du groupe sont tournées vers des travaux qui portent sur les cellules visuelles et surtout, l'essentiel est là, sur le contact qui passe d'une cellule aux autres par les synapses de tout système nerveux, mais il l'étudie dans les cellules visuelles. Il le fait de deux façons. D'une façon expérimentale, sur de petits mammifères et pour des opérations non invasives sur l'homme, au cours du développement jusqu'à la maturité, et ceci in vivo, in silico et in vitro. C'est donc une approche expérimentale qui l'est pour chacune des équipes. Et avec le mot « expérience » qui appartient à chacune d'elles. Et d'autre part, il prolonge, et tous prolongent, par une analyse mathématique, un traitement très poussé qui leur permet des comparaisons de modélisation et de simulation. Les résultats apparaissent et a apparu à tous ceux qui retirent son nom, exceptionnel parce que l'éclairage qu'il donne à l'élasticité et l'apprentissage qui est possible chez les cellules visuelles. Chacun le sait, chacun l'a vu, les cellules ont une durée de vie déterminée. Elles peuvent, par secteur, devenir invalides et il y a cette possibilité de remplacer les unes par les autres selon un certain nombre de règles. Vous verrez dans ce film l'équipe. L'équipe avec un leader au travail. Son équipe de membres relevant des différentes disciplines, il sait les faire travailler et il sait travailler avec eux dans un climat qui a surpris beaucoup des membres du jury, tant sa qualité est grande et son exceptionnalité assurée. Ils ont tous ensemble et chacun pour soi, développer des technologies qui étaient innovantes pour l'ensemble des équipes, et en particulier des technologies d'imagerie. Par ailleurs, Yves Fréjac a une caractéristique complémentaire. Ce chercheur animateur de passion est un enseignant de talent qui draine vers les disciplines, même celles qui ne sont pas très fréquentées, draine beaucoup de jeunes étudiants. Il enseigne ainsi régulièrement à l'École normale supérieure de Paris, à l'Université Pierre et Marie Curie, à l'École supérieure d'électricité. Mais aussi, en voyant son dossier, on voit qu'il est partout un homme qui sait répondre aux propositions de cours de quelques entités. Cet homme a donc le goût de diffuser son savoir et c'est ainsi qu'il est professeur visitant depuis 1989, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, et les visitants à l'université d'Alabama. Enfin, il participe dans notre collectivité, notre voulant dire dans la collectivité mondiale, à la vie, l'organisation des recherches, les grands projets, qui sont des grands projets qui intéressent plusieurs pays, administratifs et pédagogiques. Le jury du prix Louis D a constaté la qualité de Yves Fréjac et de son équipe. Et il l'a fait également, mais cela je n'en dirai rien, pour un projet qu'il dépose et qui, dans 3 ou 4 ans, aura porté des fruits qu'ils nous feront connaître, comme vont commencer à le faire tous les précédents lauréats. Et cette équipe, j'en donne pour conclure les spécialités fermes des membres dont j'ai reconnu la formation. Biologie, physique, neurophysique, modélisation, sciences du comportement, psychologie. À ce titre, pour ce candidat exceptionnel, le jury a proposé à la Fondation l'attribution de ce grand prix à Yves Fréjac et à son équipe et à tous ensemble. Je vous remercie.
Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. J'invite monsieur Yves Fréjac à monter à la tribune. Voici pour finir le lauréat du Grand Prix culturel de la Fondation Louis D. Je donne la parole à madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, pour présenter l'Université française d'Égypte.
Le prix Louis D pour la culture est décerné cette année pour la 4e fois. Dès sa création, le chancelier Pierre Messmer avait précisé, avec l'accord du très généreux fondateur du prix, qu'une double ambition devait guider les choix des jurys : l'excellence d'un projet collectif et non individuel, et son apport à la diffusion de la langue et de la culture française. Les lauréats des 3 prix précédents répondaient parfaitement à cette définition. En 2002, le prix a été décerné à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth pour qu'y soit créée une chaire d'anthropologie interculturelle. En 2004, le prix avait permis de doter la remarquable Association internationale des professeurs de français d'un siège à Paris, car ils n'avaient jusqu'alors aucun lieu pour se réunir dans le pays dont ils portaient partout la langue et la culture. En 2006, ce fut le tour des alliances françaises de Pologne, qui reçurent les moyens matériels leur permettant de mieux accomplir leur mission. En 2008, enfin, l'Université française d'Égypte, a remporté le prix. Ce bref rappel met en lumière la vocation et la dimension internationale de ce prix prestigieux. Son attribution cette année par une décision unanime du jury est un hommage à la clairvoyance du chancelier Pierre Messmer. Il avait en effet, dès la naissance de l'Université française d'Égypte en 2002, compris l'importance pour l'Égypte et pour la France de cette université, et aussi pour les liens entre les deux pays, et au-delà, pour un progrès de la compréhension entre les peuples. Il avait alors attiré l'attention du jury du prix sur cette université naissante. En 2002, il était prématuré de couronner une entreprise séduisante, certes, mais qui devait encore faire la preuve de sa capacité à exister, à se développer. En 2008, le jury confronté à l'œuvre accomplie en 6 ans s'y ralliait d'emblée et avec enthousiasme. Cette université d'un type particulièrement original est née de la volonté d'entrepreneurs égyptiens, formés dans des établissements secondaires francophones de leur pays, de renouer avec la tradition culturelle de l'Égypte du XIXe siècle, tradition portée par Mehmet Ali, qui voulait faire entrer son pays dans la modernité en s'appuyant sur le savoir, le savoir-faire et la culture française. Le canal de Suez témoigne de cette ambition. Au XXIe siècle, les entrepreneurs égyptiens, pères du projet que nous saluons, et dans la tradition des Saint-Simoniens, ont souhaité de même que cette université, symbole du monde moderne, soit fondée sur la langue et la culture française. Après avoir ouvert ses portes en 2002, avec 40 étudiants, l'Université française d'Égypte a été inaugurée officiellement en 2006 par les présidents Moubarak et Chirac. Elle comptait alors 400 étudiants, mais son objectif est d'en accueillir 900 en 2010. En 2007, les premiers diplômés issus des deux facultés créées alors, gestion et langue appliquée, ont tous trouvé aussitôt des emplois dans leur pays et un niveau de salaire très supérieur à celui qui était proposé aux diplômés d'autres universités égyptiennes. C'est dire qu'en très peu de temps, l'Université française d'Égypte a acquis une réputation remarquable et a attiré des candidats égyptiens, mais aussi, et c'était le souhait de ses fondateurs, des postulants de tout le monde arabe et notamment de la région du Golfe, c'est-à-dire des anglophones. Le prix Louis D 2008 a été attribué à la 3e faculté créée au sein de l'Université française d'Égypte il y a 5 ans, la faculté d'ingénierie, qui se réclame tout spécialement de la tradition des ingénieurs égyptiens de formation française, dont le rôle dans la modernisation de l'Égypte fut considérable. La formation donnée aux futurs ingénieurs, comme aux étudiants des 2 autres facultés, privilégie la langue française, la culture française et des méthodes de travail propres à notre pays. Mais la langue arabe et l'anglais trouvent aussi place dans les enseignements, car ce sont là des conditions indispensables à l'insertion future des étudiants dans l'économie moderne, qui leur permettront d'exercer par la suite leurs talents en Égypte et dans l'ensemble du monde arabe. Trilingues, bénéficiant tout au long de leur formation de stages en entreprise et de séjours d'études en France, les étudiants des 3 facultés de l'Université française d'Égypte reçoivent à l'issue de leurs études 2 diplômes, l'un égyptien, l'autre français, ce qui par là même leur assure une équivalence au sein de l'Union européenne. C'est dire combien de tels diplômes séduisent les étudiants et contribuent à tisser des liens entre notre pays et les élites de l'ensemble du monde arabe. Le projet présenté cette année au jury du prix Louis D était destiné à doter la faculté d'ingénierie qui forme des ingénieurs de haut niveau dans des domaines de pointe, notamment celui des installations de transfert et de transport de l'énergie, des équipements nécessaires aux laboratoires du premier cycle, afin que dans toutes les disciplines, les enseignements théoriques puissent être complétés par des travaux pratiques. Les besoins de cette faculté sont d'autant plus grands qu'elle attire un nombre croissant d'étudiants, 104 en 2007, mais qui seront près de 200 à la fin de la décennie, et seule une sélection très rigoureuse permet d'arrêter le flot des candidats. S'y ajoute le projet de développer la recherche en accueillant à l'avenir les étudiants qui préparent actuellement des thèses dans les universités françaises. Le prix Louis D contribuera ainsi au développement d'une jeune université, née de la volonté et de la générosité d'entrepreneurs égyptiens, moralement soutenus certes par leur gouvernement et par le nôtre, mais qui ont dû jusqu'à présent trouver seuls les moyens de faire surgir du néant le beau site universitaire de Chouk, à 45 minutes du Caire, sur la route de Suez. Ils ont su inventer ce pôle de culture moderne francophone, trouver des partenaires dans les grandes universités françaises, intéressés à leurs projets de grandes entreprises françaises présentes en Égypte, telles EDF, Vinci, Alcatel et d'autres, et les y associer. En définitive, l'Université française d'Égypte est le fruit d'un partenariat culturel entre nos 2 pays, mais aussi d'un partenariat industriel franco-égyptien. Ce projet est particulièrement important pour l'Égypte, car trop d'étudiants arabes, comme trop d'étudiants de pays en voie de développement ou émergents, désertent leur pays après avoir reçu une formation occidentale. L'Université française d'Égypte est née de ce constat et de la volonté de ses fondateurs d'offrir sur place aux futurs cadres arabes une formation équivalente à celle des plus grandes universités françaises ou américaines, afin de mieux les préparer à utiliser chez eux, et non dans un exil qui pénalise leur pays et nourrit des rancœurs, le savoir ainsi acquis. N'est-ce pas là la vocation du prix Louis D, que d'aider partout au progrès du savoir et à la compréhension entre les sociétés humaines?
Merci, Madame le secrétaire perpétuel. J'invite Monsieur Osman Lotfi, président de l'Université française d'Égypte, et Monsieur Bernard Fillon Dufouleur, son vice-président, à monter pour recevoir leur prix au bureau. Je voudrais maintenant exprimer toute notre reconnaissance au bureau des fondations de l'Institut qui a organisé cette séance et qui a su l'accompagner d'images et de films particulièrement émouvants et vivants. Avant de lever la séance, j'aimerais, au nom de l'Institut de France et de tous mes confrères académiciens des 5 académies qui le composent, adresser nos sincères félicitations aux lauréats et leur dire tout ensemble notre admiration et notre reconnaissance par leurs efforts et leurs réussites. Ils font honneur à l'esprit humain. J'aimerais aussi exprimer notre gratitude à tous nos mécènes. Ils traduisent en actes ce que la société ne dit souvent qu'avec des mots. Un besoin profond de justice, ce sentiment qu'au grand succès doivent revenir de grandes récompenses. La séance est levée.
Vous venez d'entendre la retransmission de la remise solennelle des grands prix des fondations de l'Institut de France qui s'est déroulée le mercredi 11 juin 2008 sous la coupole de l'Institut.